suis prêt quand tu l'es.
Bon, bah salut Maury.
Salut.
Je t'appelle Maury, c'est ça?
Ouais, carrément.
Ouais, parce que ton prénom il est composé, non?
Ouais, il est composé, c'est Maury Faudet.
Ok,
Mais
ouais.
comme tout le monde était perdu, je dis juste Maury.
D'accord.
C'est déjà assez
C'est de quelle
compliqué
origine?
maintenant. De Côte d'Ivoire.
Ah, ok. Sympa, sympa. Bon, Maury, du coup, le premier épisode est avec toi parce que tout simplement parce que moi j'ai eu l'idée de faire le podcast et après, bah, comme tu, pour les gens qui écoutent, si jamais il y a quelqu'un qui écoute et qui ne sait pas, on est étudiant donc.
Yes.
T'as eu comme Sud Paris, école d'ingénieur, toi aussi? C'est pas...
RPZ, tout à
Toi,
fait. En troisième année, moi.
ouais, parce que moi je suis en première année. Je demande parce qu'il y a deux écoles, on ne sait jamais qui est ingénieur, qui est manager.
C'est vrai.
Et du coup, dans l'école, il y a un incubateur pour créer des startups. Et vous avez organisé un événement un jour pour des gens en première année, deuxième année, qui voulaient pitcher des idées de startups. Et moi, j'ai dit, voilà, moi je vais faire un podcast, même si ce n'est pas vraiment une startup, mais je voulais juste en parler aux gens. Et
Et t'as
puis,
bien eu raison parce que
voilà.
son idée, il faut toujours les partager.
Ouais. Et bah écoute, toi, comment tu as eu l'idée de ta boîte et pourquoi bah, tu as décidé de faire de l'entrepreneuriat en fait?
Alors là, je vais parler pendant 1 heure parce qu'il y a beaucoup de
Ah,
choses à dire. Non, non, je
ok.
rigole. Mais déjà, l'idée de la boîte, c'est pas moi qui l'ai eue, c'est Ali, qui est donc le fondateur initial de Speaker Corner. Nous, ce qu'on fait, c'est une plateforme qui permet à n'importe quel fan de foot de commenter les matchs de ses clubs de cœur et de les diffuser aux autres fans, et de se rassembler comme ça en communauté, et d'interagir ensemble. Et notre mission à nous, c'est vraiment de pouvoir permettre aux fans de vivre de leur passion.
D'accord, ouais.
Donc c'est Ali qui a eu cette idée. Je l'ai rencontré un jour à un autre événement qui avait été organisé par la majeure d'avant. C'était
D'accord,
pas
ouais.
Startup Shaker, où
Ouais.
tu étais venu,
Ouais.
c'était le Startup Garden. Et
D'accord.
donc j'ai juste vu Ali pitcher son idée, j'ai trouvé ça cool. Donc je suis allé lui parler, il s'est avéré qu'il faisait la majeure entrepreneuriat, comme moi l'année d'après. Et donc on s'est dit, bah, bingo, ça part.
D'accord.
Et ça a démarré comme ça.
Donc lui, il avait un an de plus que toi. Il a un an de plus que toi.
Non, non, on était... Non, non, même âge en plus,
Ah oui, d'accord.
parce qu'on a tous les deux QB, je crois. Non, lui, il n'a pas QB, mais il a redoublé avant.
D'accord.
Donc ça
Ouais,
fait que
ça rattrape, ouais.
ça se rattrape. Bim,
Ok.
on est tous les deux de 95.
D'accord. Et est-ce que c'est l'idée qui t'a fait un peu qui t'a fait un peu considérer l'entrepreneuriat ou tu savais déjà que tu allais peut-être tenter
Je savais déjà que j'allais faire de l'entrepreneuriat.
D'accord.
Justement, j'étais dans la démarche d'aller à tous les événements que la majeure a organisés parce que je savais que j'allais faire la majeure l'année d'après. Comment je suis venu à l'entrepreneuriat, du coup,
Ouais.
c'était une des premières, deuxième partie de ta première question. Ça s'est fait de manière un peu smooth, je dirais. J'ai commencé à peut-être par une appli qui s'appelle Kuber,
D'accord.
à me renseigner beaucoup sur tout ce qui était productivité. Parce que j'ai développé pour mon compte, mais j'étais sacrément pas efficace.
D'accord.
Je me suis dit, bon, il faut que je trouve tout ce que je peux pour être plus efficace. Et donc, en regardant plein de Koob, c'est des résumés de livres en 20 minutes, c'est vachement sympa, sur la productivité. C'était vachement lié à. Il y avait productivité, développement personnel et entrepreneuriat. Donc, je passais de productivité à développement personnel. J'ai appris plein de trucs sympas et pas trop bullshit, donc c'était cool.
Ouais.
Et entrepreneuriat. Et ça m'a fait kiffer tout l'univers. Et ça me rappelait des trucs que j'avais toujours bien aimé faire, toujours faire des petits projets de mon côté. Mais je ne les poussais jamais aussi loin. Là, je me suis dit, bah, c'est le moment. L'entrepreneuriat, je vais le pousser au maximum et
Ouais.
arrêter de ne pas finir les trucs que je commence, quoi.
D'accord.
C'est aussi ça le défi.
Et ça, c'était après que tu sois rentré à l'école ou déjà avant même?
Que j'ai commencé à regarder tout ce
Ouais,
contenu.
l'univers
C'est
en développement.
première année où je suis rentré à l'école. J'ai rencontré un gars, c'est mon pote maintenant Moufdi. Et lui, il avait fait beaucoup de projets un petit peu entrepreneuriaux aussi, mais c'était vraiment de son côté. Il réparait des iPhones pour
D'accord,
faire
ouais.
de l'argent, il revendait des vitres cassées, il faisait des trucs comme ça, il faisait plein de trucs. Et je trouve ça super intéressant. Et il avait un projet de faire un site pour comparer les smartphones de manière un peu différente. Et on s'est associé sur ça. Et ça m'a donné le goût du truc. Mais même avant ça, je faisais déjà des projets comme créer des jeux vidéo, faire des sites. Donc je pense que depuis toujours quasiment, je fais des petits projets comme ça.
D'accord. Et est-ce que tu t'es dit parce que en fait moi ce que je me demandais c'est les gens qui du coup parce que l'incubateur pas nécessairement appartient à l'école mais en tout cas est fortement lié à l'école
Ouais.
et je me demandais les gens qui vont là-bas est-ce que Ils ont considéré la différence entre, on va dire, un entrepreneur qui fait donc son parcours scolaire et ensuite directement va dans l'univers de la start-up, et entre quelqu'un qui, on va dire, finit son parcours scolaire, fait quelques années dans une grosse boîte, voit un peu le milieu et après part. Okay. Parce que, est-ce que tu t'es dit un jour, il faudrait quand même que je voie le milieu du travail professionnel avant de me lancer, ou c'était jamais un problème pour toi?
Alors pour moi, ça n'a pas été un problème, parce que je ne sais pas exactement de quand ça date, mais je dirais de la première année de travailler sur mes projets perso, c'est quelque chose qui me fait vraiment kiffer. J'ai fait mes premières missions freelance il y a un ou deux ans, donc j'ai vu que je pouvais me débrouiller pour gagner un peu d'argent si vraiment j'avais besoin.
D'accord.
Avec du développement d'appli ou développement web. Et je me suis dit, j'ai fait 15 stages vraiment en entreprise, ça s'est assez bien passé d'ailleurs, mais je trouve ça juste plus kiffant de commencer tout de suite à entreprendre. Mais effectivement, ce que tu soulèves, c'est une remarque qui revient énormément, parce que nous, dans le cadre de la majeure, on est mené à rencontrer plein d'autres étudiants pour leur parler de l'entrepreneuriat.
Ouais.
Il y a toujours ce qui revient, c'est j'aimerais bien essayer de l'entrepreneuriat, mais d'abord, je vais me faire mes premières armes, quelque part, en travaillant. Et ça, je suis pas forcément d'accord, dans le sens où il n'y a pas vraiment de différence entre commencer, moi, par exemple, l'année prochaine, ne pas travailler, faire full sur mon projet, développer plein de compétences parce qu'on apprend énormément de choses, parce qu'on fait beaucoup de choses. Et ensuite, si vraiment j'ai plus envie de ça, trouver un travail.
D'accord, ouais. Et quand, oui, du coup, parce que comme avec moi et d'autres étudiants, vous rencontrez déjà plein d'étudiants en première année, deuxième année, etc. Est-ce que tu trouves que entre donc toi et les autres qui ont pris cette majeure entrepreneuriale et les nouveaux étudiants, et t'arrives un peu à distinguer qui est susceptible de se lancer ou pas, tu vois? Est-ce que tu vois qu'il y a un certain profil,
une sorte
qui
de
se distingue?
Profil type.
Ouais.
Je sais pas si on peut parler de profil type, mais souvent il y a plusieurs il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui ça les titille un petit peu, de tenter un truc, tenter une aventure. Mais souvent, il y a toujours le frein de c'est pas safe. Quand on entre à l'école, on entre aussi pour sortir, avoir un bon salaire, parce que c'est un peu ce que nos parents ont toujours voulu qu'on fasse. Et même en général, quand on dit tu fais une bonne école, c'est que tu auras une bonne vie, entre guillemets, donc un bon travail, un bon salaire. Et donc, il y a toute cette construction qui revient fortement. Mais en général, on sent que les gens ont envie de tenter des choses un peu différentes.
D'accord.
Envie vraiment d'explorer, de ne pas travailler pour quelqu'un déjà, donc un besoin un peu d'indépendance. Je ne sais pas si c'est générationnel ou quoi.
Ouais.
On a envie de partir en freestyle, de faire des trucs un peu stylés. Et surtout, on a, en général, dans notre génération, on a une image assez mauvaise du salariat quelque part. Ce qui n'est pas forcément le cas partout, je pense. Mais je pense que c'est le côté aventure, le côté je fais ce que je veux, qui titille les gens, mais pas tous assez pour vraiment vouloir se lancer.
D'accord. Ouais.
Donc pour revenir sur ce que tu disais, les profils, il y a ceux qui ont vraiment une idée qui leur trotte dans la tête, et c'est le fait qu'elle leur trotte dans la tête depuis un moment. Il suffit juste d'appuyer un peu, j'ai envie de dire, et bim, ils se lancent. Et sinon, il y en a d'autres qui voudraient se lancer, mais comme ils n'ont pas d'idée qui leur trotte dans la tête, c'est moins fort. C'est présent depuis moins longtemps.
D'accord.
C'est moins concret pour eux. Donc,
d'accord,
c'est la seule distinction peut-être que je pourrais faire.
D'accord, je vois. Et est-ce que, par exemple, il y a eu un moment pour toi où tu t'es heurté, on va dire, à une certaine difficulté ou quelque chose comme ça, et tu t'es rendu compte que l'entrepreneuriat, c'est peut-être pas forcément la vie rose, et tu te dis, ah ouais, là, c'est quand même
Ah oui,
compliqué.
L'entrepreneuriat, c'est pas du tout la vie rose.
Ouais.
On se dit, ouais, c'est trop cool, on va faire des start-up, mais non, on galère parce qu'on charbonne et on sait pas forcément ce qu'on fait. Et donc, tu as toute cette incertitude, en fait. Tu es en train de faire quelque chose. Là, par exemple, en ce moment, je suis un peu perdu. Je suis en train de faire quelque chose. On a une rencontre avec quelqu'un et je dis, putain, merde, on arrête tout ce qu'on faisait. Faut repartir sur quelque chose.
Ouais.
C'est vraiment... C'est quelque chose de difficile, hein, on ne va pas se mentir. C'est quelque chose de difficile et il faut. C'est difficile d'avoir aussi les idées claires sur ça.
Ouais.
Parce que moi, j'aime bien charbonner en mode oh, pas besoin de vacances et tout. Bon, je suis un peu bizarre aussi, mais c'est mon délire. Mais en fait, il faut savoir prendre du recul, dire stop parfois, s'écarter un peu de son projet.
Ouais.
Ce qui est très dur. Moi, je n'y arrive pas parce que tu y penses tout le temps.
Ouais.
Pour avoir les idées claires et pour prendre les bonnes décisions. Parce que ce que je te disais, c'est que en ce moment, on galère un peu. Parce qu'en fait, nous, notre marché, qui est le marché du foot, c'est surtout le marché des. Il y a des grands acteurs, par exemple des chaînes de diffusion, et on n'a pas encore le réseau pour aller parler à tout cet environnement. Et on se dit, bah, comment on va le pénétrer? C'est toute cette incertitude qui fait que c'est difficile. Mais je dirais que le meilleur moyen pour enlever toute l'incertitude, c'est de choisir une fois pour toutes, OK, on va leur parler, même si on ne sait pas comment faire, et c'est notre objectif. Et puis c'est tout. Donc fixer des. Il faut choisir en fait. Choisir ses objectifs pour pouvoir avancer. Sinon, tu te laisses toujours un peu tenter par ce qu'il y a un peu partout. Et tu fais à la fois tout, mais tu fais à la fois rien.
D'accord, ouais, je vois. Et du coup, oui, pour revenir sur le projet lui-même, donc c'est une sorte de plateforme web, c'est ça, c'est
Ouais.
exclusivement web.
Non, pas forcément. Enfin, web et par appli mobile aussi.
D'accord, ouais.
Et notre but à long terme, c'est qu'on transcende juste le web et qu'on soit vraiment sur tous les médias de
Média,
diffusion.
ouais. D'accord.
Donc, soit la télé, ou aussi si ça persiste et ça perdure l'essor des Home Assistants, comme le Google Home et tout ce qui est Alexa, d'être disponible directement sur Alexa et de pouvoir choisir juste en disant Ah, je vais changer de commentateur dans mon match, bim, ça change tout seul,
Ah
quoi.
ouais, quand même, ouais, d'accord. J'avais même pas, d'accord, j'avais même pas pensé à cet aspect-là, mais ouais. Et du coup, donc c'est des les personnes qui font qui commandent, du coup, c'est des particuliers, il y a juste des
C'est ça.
personnes, des fans, quoi.
C'est vraiment des fans, ceux qui ont envie, ceux qui ont la passion.
Et est-ce que vous faites une sorte de filtrage? Comment vous sélectionnez celui qui va pouvoir le faire?
Alors, ça, c'est des questions qu'on va devoir régler au fur et à mesure. Pour l'instant, c'est vraiment la motivation, l'énergie et vraiment la passion
D'accord.
qu'on fonctionne. C'est très humain. Si on voit que le gars, il est super motivé, il vient, il n'y a pas de souci.
D'accord.
Après, ça dépend si effectivement on travaille avec les chaînes, comme je disais tout à l'heure. C'est un univers qu'on ne connaît pas totalement. Et donc, eux, ils peuvent avoir des contraintes que nous, on peut envisager, mais qu'on ne voit pas de la même manière. Donc, il faudra aussi voir comment articuler justement les personnes qui peuvent rentrer par rapport à ça. Mais nous, notre but, c'est vraiment de faire rentrer tout le monde, tous ceux qui ont assez de motivation en fait.
D'accord. Et votre travail principal, par exemple, aujourd'hui, dans les semaines qui suivent ou qui précèdent, c'est quoi? C'est la partie technique ou la partie commerciale ou tout en même temps? Ou est-ce qu'il y a quand même pour vous un truc principal à développer là actuellement?
Alors, comme je te le disais tout à l'heure, c'est ça change tout le temps.
Ouais.
Ça change tout le temps parce qu'on tâtonne.
D'accord.
Mais là, actuellement, notre axe, c'est vraiment contacter les chaînes. Donc, ce qu'on
D'accord.
fait pour ça, c'est qu'on fait des vidéos pour pouvoir leur envoyer des vidéos qui expliquent le concept, des vidéos qui expliquent la solution, qui expliquent le marché, pourquoi on pense que l'offre peut être intéressante pour eux. Et dans le même temps, on essaie de voir toutes les personnes à contacter. Donc là, on cherche sur LinkedIn tout ce qu'il peut y avoir, mais en même temps, on est en train de se dire, bon, il faut peut-être aussi les rencontrer directement pour mettre toutes les choses de notre côté. Donc, on est en train de voir quelles émissions foot y a et comment rentrer sur les plateaux télé.
D'accord, ouais.
Donc, pour pouvoir être directement là-bas et ensuite, après l'émission, aller parler aux gens, chercher tous les hackathons qui se font aussi dans le foot pour pouvoir être présent en physique en plus des mails qu'on va envoyer.
D'accord.
C'est notre optique actuelle vraiment.
Ok, d'accord, je vois. Ouais, parce que les commentateurs actuellement au foot, ça, globalement, il y en a une dizaine, peut-être moins
C'est ça, il n'y en
que.
a vraiment pas
Ouais.
beaucoup. Sachant que le foot, c'est le sport le plus populaire qui existe
Ouais.
et que les représentants du foot, ils sont une poignée. Ils sont une poignée, alors qu'il y a plein de gens qui ont une vraie expertise sur le foot et qui mériteraient d'avoir leur public, leur audience. Et aujourd'hui, les outils pour leur permettre ne sont pas forcément les plus accessibles ou même les plus. C'est pas vraiment fait pour ça. Et c'est pas adapté à ce dont ils auraient besoin.
Ouais.
Par exemple, il y a YouTube. Mais YouTube, la monétisation, il faudrait énormément d'abonnés par rapport au marché, au footeux, par exemple, fan d'un club en particulier. C'est beaucoup plus compliqué. Déjà que
Ouais.
être YouTuber, c'est pas facile. Si en plus tu te restreins à un club, c'est compliqué.
D'accord, je vois. Et vous, comment vous faites sur votre plateforme? Qu'est-ce qui le match en lui-même, vous le streamez, comment ça se passe?
Alors là, pour nos expérimentations, parce qu'on était vraiment en stade d'expérimentation, on n'a pas commencé à développer, parce que le problème de développer quelque chose tout de suite, c'est que tu vas passer du temps, 3 mois minimum, pour développer un truc, et que tu n'es même pas sûr que l'usage que toi t'imaginais, c'est le bon pour ta cible.
D'accord, oui.
Donc pour ça, on a évité de développer tout de suite, éviter de tomber dans ce piège. Donc on a testé comme on pouvait, en utilisant des solutions diverses. On a commencé par un truc qui s'appelait MixLR. Je sais pas si tu connais.
Non.
C'est un truc qui permet de faire ta web radio.
D'accord, ok.
Donc le speaker avait dans son sur l'appli MixLR, il téléchargeait, simple, et c'était rediffusé encore sur l'appli MixLR, mais même directement sur le web. Donc tout le monde pouvait
D'accord.
écouter. Le problème avec ça, c'est que c'était pas synchronisé, l'audio, les commentaires et le match. Parce
Ouais.
qu'il y a un délai qui est induit par l'application, et même chaque télé est pas au même temps exact.
Ouais,
Et il
je
y a
vois.
plein de problèmes comme ça. Donc là, on s'est dit que ça va être compliqué pour la synchronisation. On a réfléchi à comment le régler. Techniquement, ça se fait, mais il faut développer. Donc on s'est dit,
D'accord.
en attendant, on passe sur Twitch
D'accord, ouais,
et on
Twitch.
diffuse le match en même temps. Certes, c'est pirate,
Ouais.
mais c'est pour voir, c'est déjà pour valider le concept avant de se mettre à développer comme des brutes. Et donc là, on diffuse le match en même temps que le son, comme ça les gens regardent le match sur Twitch.
D'accord. Ok, d'accord. Je vois. Et par exemple, juste pour revenir sur les commentateurs, est-ce que aujourd'hui, si quelqu'un veut, parce que c'est vraiment quelque chose auquel j'ai jamais pensé, mais si quelqu'un, on va dire, est passionné par le football, mais n'est pas un joueur professionnel et veut, par exemple, devenir commentateur, c'est quoi les options pour lui
Alors là, c'est méga dur.
Ouais.
Pour devenir commentateur
Ouais.
sportif, déjà, on te conseille de faire des études littéraires,
Ok.
de faire un peu de journalisme. Bon, ça, c'est pas non plus obligatoire. Mais en fait, ce qu'il faut vraiment avoir, c'est du réseau. Parce que comme tous les milieux fermés, c'est très restreint, il faut connaître les bonnes personnes.
D'accord.
Donc déjà, imaginons que tu démarres, tu connais personne dans le milieu des journalistes comme nous. Bah, c'est beaucoup plus compliqué que quelqu'un qui est fils de sportif
Ouais.
ou qui a déjà du réseau, puisque tout passe par le réseau, ça va venir de ta capacité à rencontrer des gens. Et ça, c'est ultra discriminant. Et personnellement, je trouve ça ultra injuste. Et c'est ça aussi qu'on veut régler. Nous, on veut te permettre, même si tu n'as pas de réseau, de pouvoir commenter ton match parce que tu as la passion.
Ouais, je vois. Oui, c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a beaucoup de, j'ai l'impression, beaucoup de business ou de mouvements qui se lancent où le but, c'est ça, c'est de donner en fait des voies d'accès additionnelles en plus des voies traditionnelles qui sont peut-être bah, compliquées d'accès, etc. Et peut-être une autre question par rapport à ça, par rapport à l'entrepreneuriat en général. Est-ce qu'à un moment, genre, tu as réfléchi à où tu vas lancer l'entreprise en France ou est-ce que dans l'entrepreneuriat, il y a toujours, on va dire, entre guillemets, le rêve américain où tu te dis la seule façon pour moi de réussir, c'est de le développer aux États-Unis ou ça, c'est un peu mort déjà.
Non, je dirais qu'à Speaker Corner, on ne s'est pas vraiment posé la question parce que on part aussi on a envie de faire percer les gens qui sont autour de nous,
D'accord,
qui ont
ouais.
déjà commencé à commenter avec nous et qu'on connaît un peu depuis toujours. On est très attaché à la France et surtout enfin,
Aux
à tout notre
personnes,
entourage, quoi.
ouais.
Et donc non, on ne s'est pas dit qu'on allait à la Silicon Valley. Mais c'est vrai que c'est une réflexion qui vient souvent parce que il y a, par exemple, c'est totalement différent de lever des fonds à la Silicon Valley. Tu peux faire des choses beaucoup plus risquées quelque part. Et il y a tout ce côté sexy et shiny. Après, faut pas se leurrer, c'est pas non plus le paradis. Et c'est pas vraiment quelque chose qu'on a considéré pour l'instant.
Ouais, mais le dans peut-être avec les autres étudiants, ce que je me demandais, c'est est-ce que, parce que je sais que maintenant, de plus en plus, en France, il y a plein déjà, il y a plus d'entrepreneurs, de plus en plus
Ouais,
d'entrepreneurs,
carrément.
et de plus en plus d'infrastructures pour aider à l'entrepreneuriat. Et je me suis demandé si bah, le rêve américain pour l'entrepreneuriat, ça devenait de moins en moins pertinent, ou c'est toujours quand même quelque chose qui est très présent.
Ok. Ouais, il y a toujours une fracture quand même
Ouais.
entre l'entrepreneuriat en Europe et l'entrepreneuriat aux États-Unis. Enfin, je te dis ça, moi, c'est des trucs que j'ai lus de personnes qui s'y connaissent mieux que moi.
Ouais.
Donc, notamment de The Family,
Je connais pas.
Qui est un accélérateur, c'est un modèle un peu particulier.
D'accord.
C'est pas un incubateur, mais c'est un accélérateur de start-up. Et justement, ils se connaissent beaucoup sur toutes ces problématiques. En Europe, c'est pas pareil parce qu'on va, plus avoir tendance à te dire ouais, mais ton truc marchera jamais. C'est pas la même mentalité. Les Américains, ils ont tous vendu de la limonade quand ils étaient petits. Alors qu'ici, c'est un truc, il y a peu de gens qui ont vendu des choses au final.
Ouais.
Et ça, c'est dur parce que quoi que tu fasses, le plus important, quelque part, c'est de vendre en fait. Parce qu'il faut bien faire rentrer de
Ouais.
l'argent pour que ton business y tourne, même quand tu fais quelque chose de social. En plus, on a parfois un rapport un peu malsain avec la vente en disant si tu dis que tu es vendeur, c'est pas forcément bien vu.
Ouais.
Les gens ont l'impression que vendre, c'est arnaquer.
Ouais.
Et alors que même quand tu fais une boîte à dimension sociale et que tu veux aider les gens, bah tu dois faire de l'argent pour aider les gens. Donc tu dois vendre. Et ce n'est pas quelque chose de mauvais parce que toi, ta mission, c'est d'aider les autres. Et il y a cette vision différente en Europe et aux États-Unis déjà qui fait une différence. Et en plus, au niveau des investisseurs, on n'investit pas de la même manière. En Europe qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, ils peuvent mettre de l'argent dans tout ce qui est Snapchat, Twitter, des consumer apps parce qu'ils voient un potentiel et ils risquent beaucoup plus, alors que c'est beaucoup plus frileux en
D'accord,
Europe.
d'accord. Et dans ce cas, les institutions du coup qui sont maintenant en place, par exemple cet incubateur-là qui est l'école, comment ça marche déjà et qu'est-ce que ça vous apporte?
Tu parles de The Family?
Non, non, l'incubateur où on est, c'est l'EMT Starter,
Ouais.
donc, qui est juste en face de nos deux écoles. Comment il marche, à qui il appartient et qu'est-ce qu'il apporte?
Ok. Alors là, ce que tu vois de l'incubateur, ce bâtiment-là, c'est qu'une partie
Ouais.
de l'IMT Starter, il y en a une autre partie à Arcueil,
D'accord.
donc qui est plus loin. Et c'est deux fonctionnements un peu différents. Ici, c'est essentiellement des personnes qui sont dans la majeure, donc qui sont encore étudiants,
D'accord, oui.
qui sont dans l'incubateur. Et on a des coachings tous les mois, en plus de nos une semaine de cours. C'est pas vraiment des cours d'ailleurs, c'est plus des workshops sur nos startups. Donc on a deux coachs tous les mois et une autre coach qui vient une fois tous les 2 mois.
D'accord.
Donc c'est l'accompagnement qu'on a, plus des propositions par mail d'événements chaque fois qu'il y a des hackathons qui peuvent être intéressants pour nous, pour rencontrer du monde, ils nous le proposent, ils nous envoient des informations comme ça. Et c'est comme ça qu'ils nous aident en nous coachant, en nous conseillant, en nous présentant des personnes intéressantes pour nos business. Pour tout ce qui est structurel, l'incubateur, ici, il est commun, il est fait pour trois écoles quelque part, ou bien en étroite relation plutôt avec un groupement de trois écoles.
Ouais.
Donc les deux de ce campus, Télécom Sud Paris et l'Institut Mines Télécom Business School, et aussi l'NCE.
Ouais.
Et il est à fond à la fois public et privé. C'est-à-dire qu'il faut savoir que pour t'aider, une fois que tu as fait ton projet, et s'ils croient que tu vas aller loin, ils peuvent investir dans ta boîte.
D'accord.
Ils ont plusieurs fonds pour ça. Des fonds non dilutifs, donc c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas de part de capital. Et il me semble que c'est à hauteur de 30 000 euros, mais je ne suis pas sûr sur ce chiffre, donc je préfère pas m'avancer.
D'accord.
Sinon, ils ont une autre... là, ils peuvent investir vraiment en échange de capital à hauteur de 400 000 euros, je crois.
D'accord.
Mais encore une fois, je ne suis pas sûr. Je sais que minimum 300 000 euros. Et l'avantage de ça, c'est que déjà, toi, nous, en étant dans la majeure, ils nous voient toute l'année, ils nous suivent toute l'année. Et chaque année, il y a un projet qui est sélectionné pour qu'ils investissent dedans.
D'accord, ok.
Par exemple, l'année d'avant, c'était Spectral, une autre boîte qui est passée par la majeure aussi. Ils ont comme ça levé 300 000 euros.
D'accord, ok.
Auprès de ce fonds. Et l'avantage de ce fonds, c'est que contrairement à une levée de fonds classique où ça prend des mois et des mois pour conclure un deal,
ouais.
Là, ça se fait en une journée.
D'accord, ok.
Et ça, c'est assez ouf parce que la levée de fonds pour un entrepreneur, ça prend énormément de temps.
Ouais.
Et comme tu prends du temps pour faire ça, tu prends moins de temps pour t'occuper de ta boîte.
Oui,
donc, c'est
oui.
un frein. Donc, la vitesse, c'est essentiel dans la levée. Et là, c'est quelque chose Ils ont une formule assez où tu viens, tu pitches pendant une journée, vous discutez, vous négociez, et bim, c'est fait.
Ok.
Ça va super vite.
Et au moment où tu reçois donc cet investissement, la startup est encore dans l'incubateur ou c'est elle doit sortir déjà ou comment ça se passe?
C'est vrai que je ne connais pas les clauses, mais il me semble que bon, ceux qui ont eu les investissements, ils sont tous à Arkay.
Ah, ils sont encore là donc.
Ouais, ils
Ok,
sont donc
d'accord.
pas dans ce bâtiment-là, mais
Mais
c'est.
oui, dans l'autre.
Mais peut-être qu'ils peuvent quand même être incubés autre part.
Ah, ok, ouais.
J'avoue que je suis pas trop sûr de ça. Normalement, ça doit être possible.
D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est quand même super intéressant le parce que moi j'avais avant de venir à l'école, mais après c'est peut-être l'effet prépa, on n'est pas très bien renseigné, mais j'étais absolument pas au courant de l'incubateur en fait, que c'était une possibilité, que ça existait.
Tu rigoles, mais moi, quand je suis rentré dans l'école, j'en ai entendu parler pendant mon entretien à l'oral de l'incubateur.
Ah oui.
Je fais, ah ouais, j'ai vu sur la brochure, j'ai vu, ah, il y a un incubateur. Ah ouais, ça c'est un truc à start-up, ça doit être cool.
Ouais.
Mais j'étais pas du tout plus renseigné que toi.
D'accord. Je vois. Ok, ouais, non, mais c'est vraiment intéressant parce que je pense que le fait que on rentre dans l'école, on sort de l'école, en face de nous, on a un incubateur, ça nous fait quand même inconsciemment dire, peut-être, tu vois,
Clairement,
peut-être un
c'est
jour.
le fait d'avoir l'incubateur sur le campus, ça débloque une barrière mentale déjà.
Oui, parce que sinon, l'entrepreneuriat, c'est j'ai l'impression que c'est toujours quelque chose, on se dit c'est loin. Tu vois, c'est loin,
Ouais.
tant physiquement que moralement,
C'est
tu
parce
vois.
qu'on nous balance aussi les success stories des
Oui, c'est ça.
entrepreneurs, qu'on fait
C'est
des
ça.
trucs avant 23 ans, il était déjà millionnaire. Et donc il n'y a que cet aspect-là et tout.
Ouais.
Mais il y a plein d'autres choses qui sont bien plus concrètes. Donc il y a carrément. C'est vrai que même moi, avoir l'incubateur, je me dis, mais attends, en fait, c'est à côté, on peut faire des
Ouais.
trucs. Et tu peux venir, tu peux parler avec les directeurs de l'incubateur, tu dis, oh, c'est trop bien, en fait, c'est pas si loin que ça. Mais c'est même principe un peu que c'est avoir un modèle. Et là, c'est modèle de l'incubateur, c'est un peu. Ça te rend la chose physiquement présente,
Ouais.
donc palpable.
Ouais. Ouais, bah oui. Je me souviens, ils avaient invité, le jour de la rentrée, ils avaient invité
Le directeur.
il y avait le directeur, et il y avait le mec aussi. Ils nous avaient ramené 5 ou 6 anciens étudiants de l'école avec, on va dire, des parcours différents pour qu'on
Ouais.
voit un peu ce qui est possible. Il y avait justement celui qui avait créé Uavia, la
Ah,
start-up
stylé,
des
ouais.
drones.
Clément?
Oui, je crois. Ouais.
Ouais.
Lui, il était là, il nous disait. Il parlait de est-ce que c'était courageux de se lancer dans une start-up. Lui, il disait, bah, moi, je trouve que pour ma part, c'était pas courageux parce que je l'ai fait en tant qu'étudiant. Et que du
Ouais.
coup, pour moi, ça a été plus simple que de quitter un
Ouais,
job,
c'est ça.
entrer dans un truc risqué, tout
Ça
ça.
revient un peu sur ce
Ouais.
que tu demandais tout à l'heure, sur le fait est-ce que c'est mieux d'entreprendre, enfin, ou est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent entreprendre après avoir un travail? Mais quand tu as une situation stable, tu as un travail, tu as peut-être commencé à fonder ta famille, c'est beaucoup plus dur de tout lâcher
Ouais.
que quand tu es étudiant et tu as encore l'habitude de bouffer tout le temps des pâtes. C'est
Ouais.
juste la continuité. Tu vas continuer à manger des pâtes une année de
Mmh.
plus, mais tu as l'habitude.
Ouais.
Alors que renoncer à un petit confort que tu aurais eu avec un bon salaire, c'est
Ouais,
fou.
ça c'est quand même un gros gros piège. Parce que souvent quand même on entend l'idée je vais aller dans ce business là hyper compétitif, enfin business je veux dire métier hyper
Ouais.
compétitif, hyper compliqué quelques années et puis j'en sors et puis
Ouais,
je verrai ce que je
ouais.
fais quoi, mais les
Mais
gens
tu
ils
te
puis
fais
restent
attraper,
ouais
attends, une fois que
c'est
t'es
ça.
dedans, t'as pris tes habitudes, bah c'est l'inertie, quoi.
Ouais.
Quand t'as pris l'habitude de quelque chose, c'est beaucoup plus dur de s'en détacher et ça te demande une énergie beaucoup plus forte que si tu partais de zéro.
Ouais. Et puis j'ai l'impression aussi que les gens, ils arrivent pas à. Enfin, je dis pas ça comme un jugement ou quoi,
Non,
mais
bien sûr.
quand les gens, ils gagnent un certain. Quand ils obtiennent un certain salaire, ils peuvent pas s'empêcher de vivre une vie qui est en accord avec leur salaire, en
Ouais,
fait.
exactement.
Donc, ils ont un gros salaire et. Rares sont ceux qui vont se dire, oh, je vais économiser pour peut-être un jour changer de métier. La plupart, ils vont dire, ok, bon, j'ai ce salaire-là, maintenant je prends une grosse voiture, grosse
Ouais, c'est ça
maison, tu
carrément.
vois.
Et ça, c'est profondément humain, parce que tu pourrais te dire, oui, mais par exemple, je vais faire ça pour gagner de l'argent, mais moi, j'ai un plan, alors je vais l'économiser. Mais ça demande beaucoup plus de force, parce que déjà, quand tu travailles dans un métier comme ça, tout ton environnement, il gagne à peu près le même salaire que
Ouais.
toi. Il faut savoir que, je sais plus qui disait ça, mais tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et quand dans ces métiers, tu travailles pas mal quand même, tu vois tes 8 heures par jour dans cet environnement, donc la majeure partie de ton temps, tu es dans cet environnement, ouais. Bah, tu vas avoir les mêmes habitudes de consommation que tous ceux qui sont autour de toi, c'est normal. Ouais. Vous allez manger aux mêmes endroits, vous allez faire les mêmes trucs. Et, et comme c'est en accord avec votre salaire, bah, tout le monde va avoir tendance à aller dépenser pas mal parce que vous avez les moyens. Sauf qu'au final, bah, tu ne fais pas forcément d'économie et tu t'habitues à ce confort.
Ouais, à ce rythme de vie, ouais, carrément. Ouais, c'est sûr. Ouais, pour les étudiants. Mais après, oui, c'est vrai que moi, les startups, ce que j'avais aussi en tête, c'était pour moi, c'est soit c'est une success story dans le sens, soit c'est $1 milliard, soit c'est tu le fais pas, tu craches à fond. Quoi.
Non, quand même, il y a des petits échelons.
Ouais, il y a un million.
Ouais. Ouais, parce que sinon, si tu comptes que faire une licorne, en France, il n'y en a pas beaucoup des startups valuées à plus d'un milliard, justement. Ouais. Et c'est la pépite. Tout le monde cherche la pépite, mais.
Mais comme c'est le truc le plus médiatisé, on a l'impression qu'en fait, c'est soit ça, soit l'échec total.
Ouais,
quoi.
C'est vrai. Hein. C'est vrai. Et ça, c'est peut-être un problème qu'il y a, c'est qu'on te vend que le rêve ultime. Et si tu as fait entre deux, c'est pas ouf. Ouais, j'entendais quelqu'un qui me disait qu'elle avait fait une petite boîte dans le textile et qui n'était pas ultra fière de ça. Alors que moi, je trouvais ça super cool. Elle a fait son petit business, elle a gagné un peu d'argent. Ouais. Ce n'est pas des fortunes colossales, mais elle l'a fait toute seule, son argent.
Ouais.
Et ça, je trouve ça ouf.
Ouais, carrément. Et puis, pour après, si jamais, on va dire... est-ce que tu penses, la question intéressante, est-ce que tu penses que les gens qui, on va dire, entreprennent en tant qu'étudiant ou juste après avoir fini l'école, imaginons que si, par exemple, leur projet n'aboutit pas, tu penses que c'est des gens qui se disent « Bon, ok, tant pis, je vais dans l'industrie. » Ou c'est des gens qui ont tellement pris goût à l'entrepreneuriat qui vont essayer un autre projet ou essayer, je ne sais pas, le freelance ou essayer des trucs qui sont loin du monde corporate, quoi.
Bah, là, je pense vraiment qu'on... C'est banal ce que je vais dire, mais je pense qu'on ne peut vraiment pas faire de généralité parce que tu as tous les types de profils. Tu en as, ils vont se dire « Non, moi, je réessaie jusqu'à que je réussisse. » Il y en a qui vont se rendre compte que ce n'était pas forcément pour eux parce que toute l'incertitude, ce n'est pas forcément... facile à gérer et puis surtout quand tu fais ça à fond, tu fais pas beaucoup d'autres choses en même temps.
Ouais.
Ça c'est un truc qu'on dit pas énormément aussi. On dit c'est trop stylé entrepreneur, mais quand tu es entrepreneur, tu fais ta boîte et c'est pas tout, tu as un autre choix parmi 4 autres: loisirs, famille, amis et conjoint.
D'accord.
T'en choisis un et puis voilà, c'est les deux trucs que tu
as
fait.
OK.
Et vraiment ça c'est la théorie de justement d'un fondateur de The Family.
Ouais.
Tu choisis deux parmi les 5 piliers et c'est tout ce que tu peux faire.
Lui, il a clairement choisi la famille, non ?
Bien vu, sûrement, ouais. Sûrement. Mais attends, j'ai oublié la question sur laquelle...
Oui, juste si les gens qui entreprennent, est-ce que ils sont plus susceptibles d'aller dans l'industrie plus tard ou recommencer en fait un projet?
Et je dirais que autant partout, parce qu'il y en a plein. Là, il y en a dans l'incubateur qui était là l'année dernière, qui avait continué cette année. Au final, ils sont allés dans une boîte parce que leur projet, ça prenait trop de temps à décoller. Et ils sont très heureux parce que ça leur permet aussi d'avoir la valeur de tout ce qui... d'avoir un truc un peu plus stable.
Ouais.
Et en même temps, ils avaient un profil qui leur fait aller rechercher de la nouveauté. Ils travaillent tous les deux pour des startups. Donc, il y a beaucoup d'autres moyens de kiffer. Et ne pas conclure sur vendre une boîte successful, ce n'est pas du tout un échec.
Ouais.
Au contraire, ça t'apprend tellement sur toi-même. Justement, tu sais plus ce que tu aimes, en fait.
Ouais.
Donc, il y en a pour tous les goûts.
D'accord, ouais.
Il
n'y
a pas de roadmap classique.
Mais c'est vrai que, comme tu as dit, là, les deux qui maintenant travaillent pour des startups, j'ai l'impression qu'on voit ça aussi pas mal. Parce que quelque part maintenant qu'ils connaissent un peu le monde, ils se disent bah moi j'ai le choix entre je sais pas aller dans une boîte de consulting ou aller dans une startup. Au final, la startup ils peuvent lui apporter quelque chose de plus concret, quoi.
Ça, je pense que aussi ils ont l'impression d'avoir plus de liberté.
Ouais.
Parce que effectivement ça peut être ça aussi, passer de la liberté totale à un cadre plus restreint. Mais peut-être, je sais pas si on peut si c'est une généralité, mais qu'il y a une recherche quand même d'être assez flexible, d'avoir une certaine indépendance dans son travail et de pouvoir exprimer sa créativité.
Mmh.
Donc peut-être des structures plus souples, donc des startups plus facilement. Mais je sais qu'aussi, il y a pas mal de grands groupes qui essaient de se diriger vers cette souplesse.
Notamment, d'accord.
Nous, on avait fait un hackathon avec la Maïf dans le cadre de la majeure. Et on a été surpris de voir à quel point, justement, ils étaient ouverts.
Mmh.
Et même... dans leur manière de travailler, c'était pas ce que j'imaginais d'un grand groupe, quoi. Il y avait quand même des échanges vachement horizontaux et ils étaient vachement écoutés par leur hiérarchie. Donc c'est des choses qui sont en train de se mettre en place, pas que dans les petites boîtes.
D'accord, oui. Oui, parce que peut-être qu'on se rend compte que c'est, j'allais dire plus efficace, mais c'est peut-être même pas ça. Peut-être c'est plus pour le, c'est pas la satisfaction des employés.
Ouais, peut-être c'est et c'est aussi générationnel. Enfin, on entend parler de tout ce qui est génération Y, qu'on cherche justement l'indépendance et tout, donc les boîtes sont obligées de s'adapter à ça.
C'est ça, ouais. Parce que c'est vrai que tout, je veux dire, de notre point de vue, j'ai l'impression que presque tous les jours, il y a une boîte ou un service qui essaie de décentraliser, quoi, qui
Ouais,
Airbnb,
c'est
Uber,
clair. Le challenge
tiens.
est partout.
C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais,
Il faut
tout en.
survivre à ça pour les boîtes. Donc
Ouais, bah
forcément, obligé
carrément.
de devenir plus sexy, hein.
Ouais.
C'est
Non,
clair.
mais carrément, carrément. Puis ça va tellement
Ah,
vite.
c'est clair. C'est
Pour les
incroyable.
services comme ça prend, mais. Puis c'est tout simplement parce que le produit est supérieur, quoi,
Ouais,
à ce qui est proposé.
l'expérience
Ouais.
est beaucoup plus incroyable. Quand tu vois que Netflix est en train de tout manger
Ouais.
et plus personne regarde la télé, je sais pas,
Ouais.
à notre âge. Parce que t'as l'expérience de Netflix, c'est un côté qui est incroyable, et la télé, tu fais que zapper.
Ouais.
Et ouais, ça change vite. Et même pour Netflix, ça change vite, parce que maintenant, il y a 10 000 acteurs qui se jettent aussi sur le marché,
Ouais.
et tout va vite.
Ouais. Google qui vient d'annoncer là, alors j'ai même pas trop suivi ce qu'ils ont fait, une plateforme
Stradia, non,
ouais,
là,
c'est
pour le
un truc
stream
comme
du
ça.
jeu vidéo.
C'est ça,
Ah,
c'est ça.
ça a l'air énorme, hein.
Ouais.
Et c'est quelque chose que Sony faisait déjà.
Ah oui, c'est avec quoi?
Avec le PSN,
Ah oui, d'accord.
ils avaient déjà du gaming dans le cloud. Et il y avait une boîte aussi qui avait voulu faire ça, qui était passée par là, et je sais plus comment il s'appelait,
Par l'incubateur?
par
Ah
l'incubateur.
d'accord.
Et eux, ils n'avaient pas pu continuer parce qu'ils voulaient en même temps faire du pari, en fait. Parier
Ah
sur
d'accord.
ta victoire sur FIFA, tu vois, des trucs comme ça.
D'accord.
Et ils s'étaient fait striker par l'État.
Ok. D'accord.
Mais c'était ça, leur idée, c'était le cloud gaming et pouvoir rendre les parties encore plus ouf. En mode, tu dis, ok, je vais gagner, donc je mise, et c'est à toi de jouer maintenant.
D'accord. Mais du coup, là, j'ai une question du coup qui. On lien direct avec ça. Mais du coup, si ils avaient effectivement essayé de développer ça, et puis boum, Google annonce leur truc,
Google
quoi.
annonce et tu te fais détruire.
Ouais.
Bah, le but, après, pour Google, c'est une start-up, mais c'est une boîte immense aussi. Ils sont
Ouais.
pas forcément aussi. Ils essaient de rester agiles,
Ouais.
mais c'est quand même un géant qui, de ce fait, va plus lentement. Le but pour eux, ça aurait été carrément de se faire racheter.
Tu dirais que Google irait plus lentement que qu'une start-up là comme ça qui essaie de faire la même chose?
Par exemple, Google, il lance plein de projets.
Ouais.
T'as vu les Google Glass là.
Oui.
Ça a été abandonné.
Oui.
Parce que.
Gros échec.
Ouais, ils ont une force de frappe incroyable, mais pourtant ils sortent pas de trucs si nouveaux que ça.
Ouais.
Parce qu'à chaque fois, ils sont sur des pistes. Oh, ça va être ouf, on commence. Et puis ils s'arrêtent parce que par rapport au chiffre d'affaires que eux ils font, bah, les profits et la communauté, c'est ridicule.
Ouais.
Ça va pas assez vite pour eux.
Ouais.
Alors que pour une start-up qui part de rien, elle a une communauté, pour elle, c'est bien, ça marche. Jusqu'à, elle va prendre le temps d'aller exploser, quoi. Et
D'accord.
là, se faire racheter par Google.
D'accord, ouais.
Et
D'accord, donc c'est pas quelque chose qu'on craint quand on est entrepreneur, qu'un gros groupe commence à faire le même service que
Il
nous,
faut
quoi.
en avoir conscience,
Ouais.
et c'est sûr qu'il faut en avoir conscience, mais c'est pour ça que tu peux te permettre de faire des trucs que des grosses et ensuite te faire racheter dans des grosses boîtes. Nous, par exemple, la brique technologique qu'on veut déployer pour synchroniser le son et la télé, ça, c'est un truc que franchement, on y a réfléchi un petit peu, donc ça se code assez facilement. Mais pour autant, il n'y a pas un réel intérêt de la part d'une boîte de recruter toute une équipe, de la mettre à temps plein dessus, de devoir la manager, plutôt que de racheter un truc qui marche déjà, en fait. C'est
Ouais,
juste que ça va plus vite.
d'accord.
Après,
D'accord, je vois.
ça joue aussi dans la négociation, c'est pas que dans un sens. Par exemple, Facebook a voulu racheter Snapchat,
Ouais.
parce que mais Snapchat a refusé.
A refusé, ouais.
Et donc, Mark Zuckerberg, il a dit, ok, maintenant je mets des stories partout.
Ouais.
Et là, tu as les stories Messenger, les stories Insta. Donc, tu vois, il aurait pu le faire dès le début.
Ouais.
Mais il a quand même cherché à racheter Snapchat avant.
Oui, d'abord, ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Instagram, pareil, finalement.
Ouais, Instagram, ils l'ont racheté. Ils ont dit, ok, on se l'a acheté.
Ouais.
Bim. Et parce que ouais, c'est ça, c'était Instagram qui les concurrençait chez les
Ouais.
jeunes. Bah, ils ont récupéré
Ouais.
plutôt que de tout refaire d'eux-mêmes.
Je vois, ouais. Et avec YouTube aussi, c'est un cas intéressant parce que c'est un truc sur lequel moi j'avais réfléchi.
Ouais.
YouTube, je pense que eux, après eux quand même, hein, 3 mecs, 18 mois de travail, 1,6 milliard de dollars, pas mal.
C'est sympa.
En 18 mois de travail, ça va, ça va. Mais eux, en fait, j'ai l'impression que les négociations ont été simples pour Google parce que ils auraient pas pu survivre sans Google.
Ouais.
Parce que, en fait, autant Instagram, par exemple, les coûts des plateformes comme Instagram, Snapchat, elles sont élevées, mais ça n'a rien à
Mais
voir avec YouTube.
c'est ça, c'est pas de la vidéo, c'est
Ouais,
de
YouTube,
l'image, c'est
c'est titanesque, quoi.
ouais.
Et puis, en fait, il y a beaucoup de spéculations là sur est-ce que YouTube est rentable ou pas.
Ah, ils sont pas rentables.
Ouais, on pense qu'ils sont pas rentables. Et comme Google, en fait, parce que il y a tout un truc avec les lois de est-ce qu'on a le droit de fournir un produit aussi immense qui soit pas rentable et tout ça. Et Google, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent ah non, non, nous, c'est juste une partie de nos services et globalement, on est rentable. Donc, il n'y a pas de
Donc c'est
souci.
bon, et c'est
Alors
ça
que
aussi.
YouTube est genre le deuxième site le plus
Ouais, c'est
populaire.
clair.
Mais oui, en fait, sans une grosse infrastructure comme Google derrière, ils n'auraient peut-être pas pu survivre. Et donc, pour eux, c'était le choix était facile, quoi. 1,6 milliard de dollars. Et puis,
Il y
voilà,
a
quoi.
plein d'autres
Sinon.
trucs qui rentrent en compte, tu vois. C'est ça qui fait aussi que chaque situation est différente. Si les mecs de Snapchat, ils n'ont pas voulu se faire acheter, mais ils avaient une bonne raison pour ça.
Ouais.
Peut-être que, en plus d'une bonne raison objective, il y a surtout les raisons personnelles.
Mmh.
Parce que quand tu fais un truc comme, enfin, quand tu fais un truc aussi grand que ça, il faut bien connaître, déjà te connaître toi-même et savoir quels sont tes objectifs quand tu le fais. C'est
Ouais.
pas j'y vais comme ça parce que c'est cool, je vais essayer de faire un truc grand. Il faut que tu aies un objectif précis de ce que tu veux faire, sinon ça va être très difficile de garder ta motivation pendant tout le temps du développement. Donc probablement que les mecs de Snapchat, ils ont dit non, nous on se fait pas acheter parce que notre objectif c'est d'avoir tant et qu'eux ils n'ont pas été, ou c'était peut-être pas l'argent leur objectif. Mais il faut avoir un objectif clair et
D'accord,
précis. Et
d'accord.
peut-être que au contraire, les gars de YouTube, ils disent ouais, bah carrément, ça c'est bon pour nous,
Ouais,
c'est ce qu'on voulait, on voulait peut-être moins, on voulait peut-être plus, mais là ça nous va.
ouais.
Et bim, exit.
Ouais. Ouais, carrément.
Ouais,
Mais
pardon,
c'est vrai
qu'est-ce
que moi, Snapchat, quand j'ai lu cette histoire, pour moi, c'était dingue, quoi.
que
Parce que les mecs ont posé 4 milliards sur la table et ils ont dit non. Enfin,
tu fumes?
moi, c'était genre, quoi? Comment ça, non?
Comme d'où tu
D'où?
dis non?
Et puis surtout qu'à ce moment-là, je crois qu'ils étaient même pas, ils avaient quasiment aucun profit. Parce que pendant très longtemps, ils n'avaient pas de pub, ils savaient
Bah
pas.
même maintenant, ils
Ouais.
sont clairement pas rentables en
Ouais.
Snapchat. C'est un puits sans fond.
Ouais.
Mais après, le fils d'un cofondateur, là, c'est un fils de milliardaire.
Ah oui, ok.
Et peut-être qu'il a pas la même. Quand ils ont démarré le truc, c'était peut-être pas l'argent sa préoccupation
D'accord,
première.
ouais.
Et donc peut-être que lui, il veut être famous comme
D'accord, ouais.
Zuckerberg, je sais
Je
pas.
vois, je vois.
En vrai, je me renseigne pas, mais je pense qu'il cache pas trop ses intentions et c'est quoi ses objectifs.
Ouais. Ouais, non,
C'est vrai
c'est
que ça pourrait être
possible.
intéressant de regarder ça.
Ouais. Non, mais carrément, ouais. Parce que c'est vrai que après quand même j'imagine que ça doit être compliqué. Après, avec des grosses sommes, c'est différent, mais typiquement, si on a une petite start-up, mais oui, peut-être que tout revient à ton objectif, comme tu disais. Peut-être qu'il y en a qui se rendent compte. Tu penses qu'il y a des gens qui peuvent commencer des entreprises avec l'idée déjà en tête qu'on va le faire pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on fasse racheter, que ça, c'est déjà le but, tu penses, ouais?
Clairement, clairement, ça m'étonne pas du tout. Après, c'est tes objectifs, tu les fixes à un temps T, ça veut pas dire qu'ils vont pas changer en cours de route.
Oui, ça.
Tout évolue. Si tu arrêtes d'évoluer, tu meurs, quoi.
Ouais.
Mais je pense clairement, c'est un cheminement assez classique de se dire, ouais, nous on fait exploser des trucs pour pouvoir vendre. Parce que quand tu vois comme tu charbonnes, je sais pas moi, 10 heures par jour ou 60 heures par semaine, tu peux pas faire ça éternellement.
Ouais.
Et tu dis, ok, je fais ça, mais pour combien et pour combien de temps?
Ouais.
C'est quoi derrière mes objectifs? Je veux faire un truc qui marche, ok, mais une fois que ça marche, est-ce que je veux faire ça toute ma vie?
Ouais.
Donc,
Non, c'est vrai.
ouais, clairement, clairement, des gens qui se disent, je fais ça, bah, parce que moi, par exemple, je me suis fixé. Au début, je savais pas. Au début de l'année, quand on a commencé, c'était flou, je voulais faire un truc. Et là, je vais même pas dire j'ai trouvé, parce que j'ai choisi. Il faut
D'accord.
choisir ses objectifs aussi, ça tombe pas du ciel. Et moi, j'ai choisi de me donner à fond pendant 5 ans. Et mon objectif, c'est de faire un truc qui marche vraiment pendant 5 ans. Et quand je dis qui marche, au début, je me suis dit juste comme ça. Et après, je me suis dit, mais ça veut dire quoi qui marche? Et comme je ne savais pas trop, j'ai fixé un objectif symbolique de je veux sortir avec 1 million. Parce que 1 million, c'est symbolique pour moi, c'est incroyable. Avoir 1 million, c'est vraiment le step. Et voilà, avoir
D'accord.
ça après mes 29 ans pour ensuite pouvoir prendre du temps avec ma famille et voyager.
D'accord, ok.
Donc vraiment, et je
Ok.
tiens même tes objectifs. C'est pas j'ai toujours su que je voulais tant d'argent, parce que je pense qu'il y a très peu de personnes qui savent vraiment ça. C'est juste qu'il faut choisir. Tu fixes ton choix à un moment donné pour pouvoir te permettre d'avancer.
D'accord, ouais. Je vois. Je vois, ouais. Mais c'est vrai que souvent, ce qu'on entend souvent, c'est. Après, moi, je parle plutôt peut-être des startups qui ont introduit un produit totalement révolutionnaire, mais on va dire
Ouais.
Microsoft, Apple, tout ça. Mais les gens qui étaient à la tête de ça, Bill Gates, Steve Jobs, eux, ça a toujours, j'ai l'impression, été le produit, quoi. Pour eux, c'était. Je crois ils croyaient tellement en leur produit que pour eux, le reste, ça n'avait pas d'importance, quoi. C'était le produit et le produit. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a maintenant différentes façons de voir les choses. Peut-être qu'avant, pour créer une start-up, à leur époque, il fallait un produit révolutionnaire, entre guillemets. Maintenant, avec Internet, ça peut être plus des services ou des choses comme ça,
C'est vrai
quoi.
qu'on est vachement à l'ère du service. On parlait de Netflix tout à l'heure.
Ouais.
Typiquement, bim, tu passes sur du service, tout est en train de passer un peu au service. Et c'est ultra facile de commencer à construire un service aujourd'hui parce que tu peux commencer à le faire toi-même, à la main, avant de
Ouais.
développer un truc, quoi. Et puis en
Ouais.
plus, même maintenant, pour faire un site, tu n'as même plus besoin de savoir coder. Il y a plein d'outils comme ça. Pour les applications, ce sera le cas. C'est déjà le cas en partie. Mais je pense que très rapidement, ça va être le cas. Plus besoin de développer pour faire une application.
Ouais, carrément.
Moi, je ne deviendrai pas développeur. Je ne miserai pas tout dessus, en tout cas, développeur
Ouais.
d'appli. C'est juste pour ça que je me suis dit, bon, je vais arrêter.
D'accord, ouais. Ouais, non, mais c'est vrai que ouais, ça c'est. C'est intéressant comment maintenant. Et oui, il y en a plein de sites maintenant qui permettent totalement créer sans.
Ouais, c'est tout l'essor des e-commerce avec Shopify. Bam, ça part dans tous les sens.
Ouais. Et puis, un truc intéressant aussi avec. Tu me fais penser avec les sites qui permettent de créer des sites web. Il y avait une. J'avais pensé à ça aussi, tout le business model derrière les grosses plateformes, enfin les réseaux sociaux, par exemple Facebook, Twitter, etc. Pour eux, ça a toujours été. Parce que les services sont gratuits. Pour eux, ça a toujours été. On essaie d'avoir le maximum d'utilisateurs possible. Tout le long, on aura des coûts. On va les couvrir avec des investissements. Et puis, au bout d'un moment, on voit ce qui se passe, quoi. Ce sera sûrement des pubs. Et voilà. Et j'ai l'impression que ce modèle-là, quand même, il est quand même très peu stable. Hein.
Ah
Twitter
oui,
a beaucoup.
c'est le moins qu'on puisse dire,
C'est vrai
ouais.
que. Ceux qui s'en sortent le mieux, je pense, c'est Facebook, mais je veux dire, ils s'en sortent le mieux, mais derrière, eux, ils ont la notoriété du site rempli de pubs, et c'est au profit de leur notoriété, en fait. Enfin,
Parce qu'au
du
final,
coup.
ils ont trouvé leur business model en permettant à n'importe qui de faire une pub accessible
Ouais.
et d'avoir de pouvoir monter ton business justement à très bas coût en faisant de la pub à très bas coût et d'atteindre beaucoup de monde. Mais effectivement, tu l'as dit, eux, ils ont cramé du cash au début, comme les Snapchat et les Twitter. Eux, leur business model, c'est pas du tout aussi établi et performant. Et ça revient un peu, ça, c'est la mentalité un petit peu des États-Unis, la
Ouais.
Silicon Valley. On peut faire ce genre de choses. Il y a des investisseurs qui investissent dans ce genre de projet où
Ouais.
ça crame, ça crame, ça crame, ça crame, jusqu'à trouver un moyen de se stabiliser. Beaucoup moins en Europe, par exemple.
D'accord, ouais.
Et en Europe, c'est vaut mieux avoir un truc plus concret où tu vas pouvoir déjà faire ton revenu tous les mois, du SaaS en B2B, donc tout ce qui est. Je vais faire la petite pub à Somebody,
Ouais.
qui
Une
font.
autre boîte de
Ouais,
l'incubateur,
c'est
ouais.
ça, eux, ils proposent de t'accompagner, en fait, c'est un assistant pour le SEO. Le SEO, donc c'est tout l'ensemble des pratiques qui te permet d'atteindre la première page de Google, juste.
Et le référencement?
Ouais, c'est le
Ouais,
référencement
d'accord.
naturel. Et eux, ouais, ils vendent ça 30. Ils sont pas encore passés en payant, mais je sais pas encore leur pricing. Et ils vont vendre ça, tu t'abonnes et tu as ton service, tu fais les choses. Ça, c'est du B2B SaaS, comme ça, l'argent il rentre pour la boîte, quoi.
Ouais.
Là, c'est plus ce sur quoi on investit en Europe.
Ouais, d'accord, je vois, ouais.
C'est
C'est quelque
moins.
chose qui est quand même plus concret.
Ouais, c'est ça. C'est moins on brûle de l'argent et trouve un business model. Ah, au bout d'un moment.
Oui, non, mais ouais, carrément. Parce que c'est quand on se dit que Twitter n'est pas rentable, on se dit, mais attends, 1 milliard d'utilisateurs pas rentables,
Ouais, t'as
c'est quoi le
vu?
délire,
Et
quoi?
c'est parce que
C'est.
c'est les coûts d'infrastructure et
C'est
quand.
dingue.
Ouais, c'est incroyable. Après, c'est pas les seuls secteurs, les trucs un petit peu.
Ouais, non, j'imagine que non.
Il y a par exemple Flixbus. Flixbus, il crame un cash incroyable pour te filer une place à 15 euros sur un trajet qui dure 20 heures et il y a 3 personnes dans le bus. Tu te dis, oh, wesh, les mecs, c'est comment? Mais eux, ils crament de l'argent jusqu'à conquérir tout le marché et ils se battent avec Webus et ils dépensent des sommes considérables. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure là que c'est comment BlaBlaCar qui voulait racheter Webus.
Ah oui?
C'est ouf.
D'accord.
Et parce que ouais, ils veulent diversifier leur offre, mais le marché des donc j'allais dire des bus, mais des transports en commun sur des villes d'Europe, c'est ultra concurrentiel et là aussi ça parle d'investissement massif et pas de rentabilité.
Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il faudra sûrement. Bah, le mec qui arrive à trouver le business model alternative.
Ouais.
Patreon, par exemple, quand ils ont créé ça, ça a pris enfin, ça a pris de ouf parce que.
Patreon.
Ouais, en France, on a. Enfin, je sais pas si c'est français, mais c'est plus utilisé en France. Litchi,
Ouais,
KissKissBankBank,
ouais.
les trucs où. Ah non, ça, c'est peut-être différent.
Pour les
Ouais,
crowdfunding ou
ça,
pas?
c'est le crowdfunding. Le Patreon, c'est différent. C'est. En fait. Tipeee, c'est ça en France. C'est un créateur de contenu, par exemple un YouTuber, il
Ah.
crée un compte sur Patreon ou sur Tipeee en France,
Ouais.
et puis les gens s'inscrivent sur le site et ils contribuent, ils donnent de l'argent. Ça peut être tous les mois ou à chaque fois que le créateur sort une vidéo et ils donnent ce qu'ils veulent en fait, 1 euro, 2 euros, 5 euros. Et tu as des créateurs de contenu. En fait, ça aide les créateurs de contenu tout simplement parce que c'est pas toujours facile de gagner de l'argent sur YouTube par
Ouais,
exemple.
carrément.
Ou si t'as un
Mais
blog,
c'est
ou
trop
si
bien ça,
t'as.
mais c'est le
Ouais.
business model de Twitch.
Oui. Voilà. Mais
Ok.
Twitch, eux, c'est un abonnement 5 $, je crois, 5 euros.
Ouais.
Et puis après, tu peux faire des dons, quoi.
Ouais.
Et là c'est. Y a pas de. Enfin, peut-être qu'il y a un minimum. Oui, je pense qu'il y a un minimum de 1 $, 1 euro. Mais après, tu donnes ce que tu veux. Et typiquement, il y a des créateurs de contenu. Par exemple, parce qu'il y a beaucoup de gens sur YouTube, maintenant, récemment, qui sont créateurs de contenu, mais la nature de leur contenu fait qu'ils sont constamment démonétisés. Et du coup, sur YouTube, ils gagnent de moins en moins d'argent.
Ouais.
Donc, ils créent un compte sur Patreon. Et s'ils ont une fanbase
Assez
très.
forte, une
Ouais,
communauté soudée.
exactement. Et ben souvent, ils contribuent et puis ils arrivent à des sommes assez conséquentes, hein,
Ah, c'est pas
parfois.
mal ça. Bah, j'irai carrément voir.
Bah ouais, non, c'est pour les créateurs de contenu, c'est super bien. Bah, il y a Usul, par exemple, en France. Usul, je sais pas si tu connais, c'est un.
Ça me dit quelque chose, mais je suis pas
Ouais,
sûr.
c'est un mec qui fait des vidéos. Moi, je regarde. Pas trop, mais je crois que la qualité de ces vidéos est très très bonne. Mais lui, je sais que sur Tipeee, il est presque à 10 000 euros par mois. Un
Ah,
truc.
c'est ouf.
Ouais, un truc assez. Mais lui, il est numéro 1. Il y a aussi
Ouais.
Mathieu Sommet de Salut les geeks qui avait
Ouais,
avant.
ouais,
Ouais.
ouais.
Lui aussi, il a plusieurs milliers. Mais ça, c'est voilà, c'est des particuliers qui aident. Mais pour le coup, le business model marche vraiment. Enfin, pas le business model du site, mais pour les créateurs de contenu, c'est super, quoi.
Ouais, parce que c'est donc quelque part le business model de Twitch, mais pas ciblé que sur cette niche.
Oui, c'est ça.
Et ouais, mais la création de communauté, c'est ultra fort. Et quand t'as un lien entre un youtubeur et sa communauté, ils sont prêts à lui donner de l'argent parce que déjà ils aiment son contenu et ils veulent continuer à en voir. Et pour ce faire, il faut bien qu'ils puissent vivre le créateur de contenu.
Ouais. Mais en fait, c'est ce que moi je disais souvent, c'est. J'ai l'impression, mais je pense que c'est ça. Le plus important, c'est l'audience.
Ouais.
Quel que soit, en fait, le business ou le contenu que tu fais. Le plus important, c'est l'audience. Typiquement, moi, je me souviens, là, les gens commencent à comprendre de plus en plus, mais avant, on demandait beaucoup comment ça se fait qu'il y a des gens sur YouTube qui
Ouais,
gagnent des sommes
c'est
astronomiques.
ça, on comprenait pas.
On ne comprenait pas. Et ce que moi, je disais tout le temps, ben, ce qui compte, c'est l'audience. Si le mec arrive à rassembler 1 million de personnes devant une même vidéo, c'est fini,
Ouais,
quoi. Pour
c'est
lui,
ça, et
enfin,
c'est même
c'est le
plus
jackpot.
que, enfin, c'est lié, mais c'est carrément, c'est la communauté, donc effectivement, c'est l'audience dans le nombre, mais il y a aussi tous les aspects de liens et de gens qui te suivent
De loyauté,
depuis un
ouais.
moment, c'est ça, de loyauté, et qui aiment ta personnalité et la relation que tu as avec eux, comment
Ouais.
tu leur réponds, comment tu les mets en avant. Et aujourd'hui, ça, c'est quelque chose d'ultra puissant, et on le voit, c'est ce qui se passe aussi avec les influenceurs. Ils arrivent à créer une
Ouais.
communauté qui leur permet, et ça, c'est quelque chose que les marques, donc, elles cherchent à faire, mais surtout à entrer en contact avec des influenceurs, parce que c'est ça qu'ils réussissent à faire. Et c'est totalement ouf. Mais créer une communauté, c'est tout un art. Mais si tu arrives à faire ça, c'est incroyable.
non mais
Nous, c'est
carrément.
ce que nous notre c'est ça notre
Ouais,
but,
c'est ça.
c'est que nos speakers puissent agréger des communautés autour d'eux. Et c'est quelque chose qui est très difficile. Et nous, en fait, on est en train de chercher comment les gens font pour créer des communautés, pour pouvoir donner tous les outils dont les speakers auraient besoin pour pouvoir le faire du mieux
D'accord, ouais.
possible. Parce que le but, en fait, pour créer une communauté, c'est pas juste de le faire, c'est une question d'outils. Il faut que les gens puissent communiquer entre eux au sein de la
Ouais.
communauté. Il faut qu'ils puissent communiquer aussi avec le leader, et que le leader puisse communiquer avec eux, et qu'ils soient liés par un objectif ou par un intérêt commun, quoi.
Ouais.
Il y a plein de trucs,
Ouais.
de facteurs.
C'est vrai que c'est, je suppose que c'est souvent une question d'outils parce que je pense que toi aussi, mais moi souvent je croise des gens et rien que en voyant leur personnalité, je me dis mais toi tu crées une page, un blog sur Internet, c'est fini quoi,
C'est
c'est le
clair.
buzz total. C'est juste les, parfois il y a des gens où ce qu'ils font ou leur personnalité est telle que tu dis mais toi avec n'importe qui tu deviens pote quoi.
C'est
Et du
clair.
coup la communauté elle va te suivre à fond.
Et tu sais que c'est
Ouais.
une personnalité qui va plaire à du monde et qui peut engranger des trucs. Ouais, c'est clair.
Ouais.
Après, ça demande une sacrée détermination
Oui,
aussi.
c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, ouais. Bon, bah écoute, ça fait presque 1 heure qu'on parle.
Ah, bah c'était carrément sympa.
C'était super sympa, ouais, bah premier épisode, et puis on verra ce qui se passe. Attends, est-ce que je t'ai dit le nom du podcast?
Non, tu
Même
me l'as pas
pas.
dit. Comment ça s'appelle?
Ça s'appelle Note pour plus tard.
Note pour plus tard, sympa.
Voilà. Et l'abréviation, c'est NPPT.
NPPT, c'est
Ouais.
sur SoundCloud, ce sera.
Ouais, en fait, bah je vais essayer un peu toutes les plateformes.
Ouais, carrément, t'as bien raison.
Ouais.
Tu feras un Tipeee, un petit
Je sais pas.
Patreon et tout.
Je sais pas, on verra. Si j'arrive à avoir une communauté, on va dire.
Inch'Allah.
Voilà.
Pour les 3 auditeurs.
C'est ça pour les 3 personnes qui nous écoutent. Bon, bah c'était super. Bah merci d'avoir accepté en tout cas.
Merci à toi, j'ai
Merci de
kiffé.
m'avoir encouragé aussi quand je
Ah
t'en ai
oui,
parlé.
il faut, franchement, je trouve ça super comme démarche, et même c'est trop cool, et en plus tu vas rencontrer plein de gens, et ça va
J'espère.
escalader, ça va être trop bien. Tu vas kiffer.
Yes,
Et ça va pas
j'espère.
être facile, hein,
Ouais, non,
mais
non,
tu vas
je.
kiffer.
C'est ça, c'est ça. Bon, bah merci. On arrête sur ça.
Yes.